Volume 6, Les œuvres de George Fox, Livre Doctrinosii, Suite Vii. Une réforme hors du paganisme et du papisme, concernant l'observance des jours, des mois, des temps et des années, les éléments pauvres du monde. L'apôtre dit aux Galates, « Car lorsque nous étions enfants, nous étions esclaves sous les règles et traditions de la culture du monde. Mais maintenant, après que vous avez connu Dieu ou plutôt, que vous êtes connu de Dieu, comment retournez-vous encore aux règles et traditions de la culture du monde ?» où vous semblez désirer de nouveau être ramené en esclavage. Vous observez des jours, des mois, des temps et des années. Je crains pour vous, de peur d'avoir travaillé pour vous en vain. Galates 3:9-11. Or ici vous pouvez voir que, quant à l'observance des jours, mois, temps et années juifs que Dieu leur avait commandés, l'apôtre dit qu'ils y étaient, lorsqu'ils étaient enfants esclaves. Et l'apôtre les appelle des éléments faibles et pauvres du monde, vers lesquels certains chrétiens s'étaient retournés, eux sous lesquels ils avaient été auparavant. Et dès lors, comment la chrétienté, depuis les jours des apôtres, est-elle retournée à ces faibles et pauvres éléments du monde, en observant des jours, des temps, des mois, etc., que Dieu n'a jamais commandés? Et non seulement ils sont eux-mêmes en esclavage en les observant, mais ils amènent d'autres en esclavage, et emprisonnent et persécutent ceux qui ne les observent pas, et ferment leurs boutiques. Et l'apôtre n'a-t-il pas, pour de tels, travaillé en vain? Et Dieu et le Christ ne sont-ils pas davantage déshonorés en ces temps et ces jours qu'ils appellent jours saints qu'en tout autre temps et jour de la semaine? Car ne voyez-vous pas qu'il y a plus de vanité, de méchanceté, de licence, de profanation et de prise en vain du nom de Dieu et du Christ en ces jours que vous appelez jours saints, que l'apôtre appelle des éléments pauvres, qu'en tout autre jour de la semaine? Vous qui êtes en esclavage sous ces faibles et pauvres éléments du monde, n'êtes-vous pas dépouillés par la philosophie et la vaine tromperie, selon les traditions des hommes, selon les rudiments ou éléments du monde, et non selon Christ? Et l'apôtre n'a-t-il pas averti l'Église du Christ de telles choses, et n'a-t-il pas dit, « Si vous êtes mort avec Christ aux rudiments ou éléments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, êtes-vous soumis à des ordonnances du monde ?» Et l'apôtre dit, « Ne touche pas, ne goûte pas, ne manie pas, choses qui périssent toutes par l'usage, selon les commandements et doctrines des hommes. » Ainsi l'Église du Christ ne devait ni toucher, ni goûter, ni manier les rudiments, éléments, traditions, ordonnances, commandements, ni doctrines du monde. Et c'est pourquoi ils souffrirent, persécutés par le monde parce qu'ils ne voulaient ni les goûter ni les manier. Mais ceux qui ne sont pas morts avec Christ ne le tiennent pas pour leur tête, ils ne sont pas comme lui, mais dans le monde se donnent plusieurs têtes, et goûtent, touchent et manient les traditions, rudiments, éléments, ordonnances, commandements et doctrines du monde, commandées par des hommes du monde, qui ne sont pas selon Christ. Et ceux-là sont en esclavage sous eux, Col 2:16-23. Et ceux-là persécutent ceux qui ne veulent pas observer leurs jours et leurs rudiments, mais qui, au contraire, voient le jour du Christ et l'observent. Et l'apôtre a dit, « Je suis vendu au péché, Rome 7:14, et avoir des pensées charnelles, c'est la mort, parce que la pensée charnelle est inimitié contre Dieu, elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, et en effet elle ne le peut pas, Rome 8:6-7. Et encore l'apôtre dit que Dieu a enfermé tous, juifs et gentils, dans l'incrédulité, afin de faire miséricorde à tous. Rome 11:32. Et encore il dit, « Tous sont enfermés sous le péché, afin que la promesse par la foi de Jésus-Christ soit donnée à ceux qui croient. » Galates 3:22. Comment la mort a passé sur tous les hommes, et tous sont morts en Adam. Tel est l'état des non-convertis dans la mort, vendus et conclus sous le péché et l'incrédulité, alors le péché et la mort dominent sur les non-convertis. Or le Christ, versant son sang et goûtant la mort pour chaque homme mort dans les péchés et les offenses, est donc mort pour leurs péchés, et il est la propitiation pour les péchés du monde entier, et il est un esprit vivifiant et l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, et veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, qui les rendra libres, afin qu'ils vivent en Christ et le suivent. Lui qui met fin au péché achève la transgression et introduit une justice éternelle. Et tous ceux qu'il a vivifiés et rendus vivants par Christ, comme l'a dit l'apôtre, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2:6. Et ainsi Dieu, par Christ, réconcilie toutes choses avec lui-même, par lui, dis-je, soit les choses qui sont sur la terre, soit celles qui sont dans les cieux, et l'évangile de vie et de salut est prêché à toute créature sous le ciel. Col 1:23. Et l'apôtre dit aux Hébreux que dans la première alliance, ils avaient des ordonnances pour le service divin, des cérémonies et un sanctuaire terrestre. Alliance qui ne consistait que dans des aliments, des boissons, diverses ablutions, des ordonnances charnelles et des cérémonies imposées aux Juifs jusqu'au temps de la Réformation. Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait, non fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette construction, à savoir l'ancienne alliance. Hébreux 9:1-11, lui qui est fait prêtre, non selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Hébreux 7:16. Mais maintenant, une fois, Christ, à la fin du monde, est apparu pour abolir le péché par le sacrifice de lui-même. Ainsi, il est la fin du monde, de toutes les choses mondaines, des sanctuaires terrestres, du tabernacle et des ordonnances charnelles, des commandements, des diverses ablutions extérieures, et de toutes les dîmes, offrandes et sacrifices extérieurs et mondains, qui sont mondains. Or Christ, une fois, à la fin du monde, est apparu pour abolir le péché par le sacrifice de lui-même, Hébreux 9:26, au terme de toutes ces choses mondaines, et il est le commencement d'un monde nouveau, avec ses choses célestes, lui qui fait toutes choses nouvelles. Et l'apôtre dit aux Corinthiens, sur qui étaient venues les fins du monde, c'est-à-dire la fin de toutes les choses extérieures et mondaines, et il les appelle des enfants en Christ, 1 Cor 11:11, il ne pouvait leur parler que comme à des enfants en Christ qui n'étaient pas de ce monde, que celui qui a des oreilles pour entendre entende et lit ces choses, George Fox X. Concernant les bâtisseurs qui rejettent la pierre angulaire, et les vignerons qui tuent les serviteurs et le fils du Seigneur, et comment Caïn a bâti la ville de Nod, et Nimrod la ville et la tour de Babel, et comment Dieu a établi sa cité, la nouvelle Jérusalem céleste, et les chrétiens apostats ont établi la cité Babylone, depuis les jours des apôtres. Sont tous vos prêtres, évêques et docteurs, les sages maîtres bâtisseurs de la chrétienté, qui comme les juifs rejettent Christ la pierre angulaire et accomplissent ainsi les Écritures comme les juifs, eux qui font profession de la lettre du Nouveau Testament comme les juifs le faisaient de l'Ancien, eux qui se rebellèrent contre le bon esprit que Dieu leur donna pour les instruire, et résistèrent au Saint-Esprit, qui conduisit les saints hommes de Dieu à produire les Écritures, et résistèrent aussi à ces hommes et les persécutèrent et résistèrent au Christ. Et telle fut l'œuvre de ces sages maîtres bâtisseurs, au jour où Christ était dans la chair. Et vous tous, professeurs extérieurs de la lettre dans la chrétienté, qui vous regardez comme les sages maîtres bâtisseurs, ne haïssez-vous pas la vraie lumière, la vie en Christ, par laquelle il éclaire quiconque vient au monde, et ne la reconnaissez-vous pas, alors ce sont des bâtisseurs aveugles. Et ne reconnaissez-vous pas que Dieu répand son esprit de grâce sur toute chair, pour les conduire, les enseigner et leur apporter le salut, et ne dites-vous pas que cela n'est pas suffisant sans vous, sages maîtres bâtisseurs. Et reconnaissez-vous que la grâce et la vérité sont venues par Jésus, et que tous les peuples, dans cette grâce, cette vérité et cet esprit, doivent servir et adorer Dieu. Et ceux qui le font, et en viennent à vous abandonner, vous prêtres, évêques et docteurs qui vous regardez comme les sages maîtres bâtisseurs, n'êtes-vous pas alors en colère, et ne les persécutez-vous pas, en disant qu'ils ont abandonné les moyens ? Quoi, tous vous évêques, prêtres, ministres et docteurs, êtes-vous les gardiens de la vigne dans la chrétienté ? Ne vous a-t-elle pas été affermée, à vous vignerons ? Et lorsque le Seigneur a envoyé ses serviteurs chercher des fruits parmi vous, ne les avez-vous pas bannis, emprisonnés, lapidés, pendus, tués, brûlés, et mis à mort, nombre de serviteurs du Seigneur ? Et n'avez-vous pas, pour vous-même, crucifié de nouveau le Fils de Dieu, l'héritier de la vigne, et ne l'avez-vous pas exposé à l'opprobre public par vos vies et vos conduites mauvaises ? Que pensez-vous donc que le Seigneur de la moisson fera de vous, vignerons, vous qui avez agi ainsi envers ses serviteurs, son fils et son héritier ? Pensez-vous que vous ne serez pas tous expulsés, et que vos vignes ne seront pas affermées à ceux qui porteront des fruits pour le Seigneur ? Que tous les persécuteurs, emprisonneurs et bannisseurs de la chrétienté au sujet de la religion, depuis les jours des apôtres, considèrent ceci, et quelle sera votre fin, vous qui n'avez porté aucun fruit pour Dieu, mais lui avez désobéi comme Adam et les Juifs, et suivi le serpent meurtrier et destructeur des vies des hommes, et n'avez pas suivi Christ, qui détruit le diable et ses œuvres, et qui est venu sauver les vies des hommes et non les détruire, et qui a repris ce qui voulait que les vies des hommes fussent détruites, et leur a dit qu'ils ne savaient pas. C'est pourquoi vous tous, vignerons, gardiens de la vigne et sages maîtres bâtisseurs, qui avez détruit tant de vies, emprisonnés et banni tant de personnes, et dépouillé leurs biens parce qu'elles ne voulaient pas se conformer et être de votre foi, de votre religion et de votre culte, vous n'avez pas été de la vraie religion, foi ni adoration de Dieu, vous ne savez pas vous-même de quel esprit vous avez été, vous qui avez fait cela, vous n'avez pas été et n'êtes pas dans l'esprit de Christ, qui est venu sauver les vies des hommes et non les détruire, et Christ n'a. Donc vous n'êtes pas comme ces gens furieux qui construisent des gibets et des prisons, et allument des feux sur la terre pour détruire les hommes, parce qu'ils ne veulent pas recevoir leur voix, religion et cultes inventés, et pourtant ils voudraient être appelés chrétiens, du nom de Christ, sans le suivre dans la vie, l'exemple et la doctrine. Et Caïn, qui désobéit à Dieu et n'agissait pas bien, qui était meurtrier bien qu'il offrit des sacrifices, fut bâtisseur de la ville de Nod, et cela ne signifie-t-il pas errance, et dans le monde nouveau, Nimrod, qui ne se souciait pas du Seigneur, n'a-t-il pas bâti Babel, une ville de confusion, et qu'est devenue la ville et la lignée de Nimrod ? Et les Juifs, qui se rebellèrent contre Dieu, sa loi et son esprit, ne devinrent-ils pas des vagabonds, des persécuteurs et des meurtriers des justes ? Et les chrétiens, depuis les jours des apôtres, qui haïssent la vraie lumière, la vie en Christ, et se sont égarés loin de l'Esprit de Dieu qu'il a répandu sur toute chair pour les conduire et les guider, et loin de la vérité et de la grâce de Dieu qui viennent par Jésus, pour les enseigner et leur apporter le salut, cela n'ont-ils pas été les bâtisseurs de Babylone, la cité de confusion, depuis les jours des apôtres? Dans cette cité se trouve le sang des prophètes et des martyrs de Jésus, de sorte qu'ils sont devenus ivres du sang des justes, des prophètes et des martyrs de Jésus. Et le dragon, la bête et le faux prophète ne se trouvent-ils pas dans cette cité? Mais ils doivent tomber, et Dieu les récompensera selon leurs œuvres. Et il y eut à peine un homme juste ou un prophète qui ne souffrit à Jérusalem extérieure, par les Juifs transgresseurs, car Christ a dit, « Toutefois, il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Luc 13, 33. Mais Dieu établit sa nouvelle Jérusalem céleste, dans laquelle ni le dragon, le vieux serpent, ni la bête montée de la mer, la bête de la mer, ni la bête montée de la terre, la bête de la terre, ni le faux prophète, ni la prostituée de Babylone, ni aucun persécuteur ou personne impure ne peut entrer, bien que la porte demeure ouverte nuit et jour, mais seulement ceux qui marchent dans la lumière de l'agneau, et dont les noms sont écrits dans le livre de l'agneau, et dont la lumière est la gloire du Seigneur et de l'agneau. Alléluia à jamais. Et les nations de ceux qui sont sauvés marchent dans la lumière de cette cité. X, Nouvelle, Nouvelle, Caïn, Ismaël, Ésaü, Corée, Dasené, Abiram, Balaam, et l'ancien Simon le magicien, et ses disciples se sont changés en chrétiens extérieurs. Nouvelle, Nouvelle. Caïn, ce meurtrier courroucé des justes, est devenu chrétien, mais n'a pas quitté sa haine courroucée, son meurtre et sa persécution, il demeure toujours un méchant. Et Nouvelle, Nouvelle. Le farouche Ismaël, dont la main est contre tout homme, est devenu un chrétien extérieur, et a revêtu l'habit de brebis, mais demeure dans sa naissance moqueuse, railleuse et persécutrice contre la semence de la promesse. Nouvelle, nouvelle. L'impie Ésaü, cet homme des champs, qui méprise son droit d'aînesse éternel, lui qui est la première naissance, lui qui aurait tué Jacob, est devenu un chrétien extérieur, mais il n'a pas quitté son vêtement rude, par lequel on peut savoir qu'il n'est pas une brebis du Christ. Nouvelle, nouvelle. Corée, Dasen et Abiram sont devenus des chrétiens extérieurs, mais demeurent encore avec leur faux feu, jusqu'à être consumés par le feu du Seigneur, et restent dans leur rébellion et leur rébellion jusqu'à ce que la terre les engloutisse. Ainsi ils seront connus par leur faux feu, leur rébellion et leur révolte contre la loi et l'Évangile. Étrange nouvelle. Balaam, celui qui plaçait des pierres d'achoppement devant le peuple de Dieu, est devenu un chrétien extérieur, mais il demeure dans son égarement et convoite le salaire de l'injustice. Et pourquoi Balaam ne pourrait-il pas devenir chrétien, tout comme les fils ou disciples de Simon le magicien, qui achètent pour de l'argent leurs prétendus dons et le vendent pour de l'argent, comme l'ancien Simon, qui pensait avoir acheté le don spirituel pour de l'argent, et l'avoir vendu pour de l'argent. Parce que nous ne pouvons pas donner au cupide Balaam son salaire d'injustice, ni de l'argent aux disciples de Simon le magicien pour leurs dons, ils sont et ont été très irrités, pleins de colère, d'envie et de malice, et nous ont persécutés. Mais tous les vrais chrétiens savent qu'ils sont de la semence de Balaam et de l'ancien Simon le magicien, et non du Christ. XI. Ici vous pouvez voir que les dons célestes et spirituels que Dieu et le Christ donnent à leurs ministres ne doivent pas être achetés ni vendus pour de l'argent, et que ceux qui le font sont dans le lien de l'iniquité et le fiel de l'amertume, comme Simon le magicien. Christ dit à ses apôtres, disciples et ministres, lorsqu'il les envoya prêcher son évangile, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Ainsi les ministres de l'évangile sont distincts des ministres et docteurs de la loi. Car ceux-ci avaient des dîmes, des offrandes et d'autres choses pour servir et enseigner la loi, et ce que la loi commandait dans l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament, laquelle loi servit jusqu'à ce que Christ vienne avec son Évangile et sa Nouvelle Alliance, son Nouveau Testament, et qu'il envoie les ministres de sa Nouvelle Alliance, de son Nouveau Testament, qu'il rendit capables comme ministres de l'Esprit, et non de la lettre, qui se met pour l'Esprit et non pour la chair. Et à ceux qu'il envoya, il dit, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, à savoir, ses dons parfaits, sa grâce, son esprit ou Saint-Esprit, qui vient du Père et du Fils, sa foi, dont il est l'auteur et le consommateur, son évangile éternel et glorieux de vie et de salut. Ce sont là des choses célestes, spirituelles et divines, qu'ils reçurent gratuitement de Christ, et qu'ils devaient redonner gratuitement aux gens. Ils ne devaient pas les vendre ni marchander avec les gens pourtant parents, ni leur vendre ses dons spirituels, car par là. Simon le magicien offrit de l'argent aux apôtres, et aurait voulu acheter ce don, afin que quiconque recevrait l'imposition de ses mains reçoive le Saint-Esprit. Mais l'apôtre lui dit qu'il était dans le fiel de l'amertume et le lien de l'iniquité, lui qui pensait que le don de Dieu pouvait s'acheter et se vendre pour de l'argent, ainsi en est-il de tous ceux qui partagent sa croyance. Et bien que Paul plante et qu'Apollos arrose, pourtant il donne gratuitement cette eau de vie. La proclamation générale, tant par Isaïe que par Jean dans son Apocalypse, est « Oh, vous tous qui avez soif, venez gratuitement aux eaux de la vie ». Ainsi il devait manger et boire gratuitement la nourriture céleste, entendre gratuitement l'Évangile et ce que l'Esprit disait aux églises, il devait venir sans argent et sans prix, et ne pas dépenser leur argent pour ce qui n'est pas du pain, ni leur travail pour ce qui ne rassasie pas. Et tous ceux qui avaient soif devaient venir sans argent et sans prix, écouter attentivement, et leurs âmes vivraient. Ainsi, les choses célestes et spirituelles, et les dons de Dieu, ne s'achètent ni ne se vendent pour de l'argent, bien qu'ils aient mangé de leurs choses charnelles et de ce qu'on mettait devant eux, eux qui leur ministéraient des choses spirituelles. Quoiqu'au temps de la loi, les dîmes étaient dites saintes, elles ne le sont pas dans l'Évangile, car Christ rend toutes choses saintes. Ses ministres, à qui il a donné gratuitement ces choses spirituelles, il leur a dit de les donner gratuitement à leur tour. Ils crurent en Christ et se confièrent en lui pour les choses extérieures, et lorsqu'il les envoya sans bourse ni bâton, et qu'ils revinrent, il leur demanda s'ils avaient manqué de quelque chose, ils dirent non, car il pouvait pourvoir à ce qu'il envoyait, lui qui avait pu nourrir tant de gens avec quelques pains et quelques poissons. Quand les disciples avaient peiné toute la nuit avec leurs filets sans prendre aucun poisson, Christ leur dit de jeter de nouveau le filet à la mer, ils le firent et le retirèrent, et à sa parole, le filet fut plein de poissons. Ainsi ce que Christ envoie avec sa puissance et le Saint-Esprit, et à qui il a dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement », cela ose se confier en Christ tant pour les choses charnelles et temporelles, pour eux-mêmes et leurs familles, et de tels travaillent à garder l'évangile de Christ sans frais, afin que nul ne puisse dire que c'est un évangile coûteux. Et les apôtres, et ceux qui leur succédèrent dans le même esprit, convertirent davantage de juifs et de païens à Christ par leur prédication gratuite, que les papistes et les protestants ne l'ont fait en 1000 ans. Car ils les convertirent avec les armes et l'armure spirituelle dont Christ les avait armés. Mais les protestants et les papistes ne les ont-ils pas fait passer d'une secte à une autre par des armes charnelles ? Dans l'Ancien Testament, ils avaient des chantres, et ils en ont ainsi maintenant dans leur cathédrale. Mais chanter dans la grâce, chanter et prier dans l'Esprit et le Saint-Esprit, cela est dans le don de Dieu, cela ne doit pas se faire pour de l'argent, mais gratuitement, selon que la grâce de l'Esprit de Dieu l'émeut dans sa sagesse, au jour de son Évangile. Et l'apôtre dit, « Nous parlons sagesse parmi ceux qui sont parfaits, mais non la sagesse de ce monde. » Car Job dit que la sagesse ne s'achète ni pour de l'or, ni pour de l'argent, ni pour des perles, car de telles choses ne peuvent être égalées ni évaluées au prix du don de Dieu. Car tous les ministres de Dieu et du Christ dans le Nouveau Testament, les dons et choses célestes et spirituelles qu'ils ont reçus gratuitement de Christ, doivent les donner gratuitement à leur tour, car ils ne doivent pas être évalués, égalés ni achetés pour de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Car ceux qui pensent qu'ils peuvent s'acheter ou se vendre pour de l'argent sont dans l'esprit de Simon le magicien, et non dans le Saint-Esprit, ni dans l'esprit et la puissance de Christ, dans lesquels étaient les apôtres. L'apôtre a dit, « Obéissez à ceux qui ont autorité sur vous, et soyez soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non avec tristesse. » Hébreux 13:17. Et l'apôtre dit dans Actes 20:28 que le Saint-Esprit les avait établis surveillants. Or les ministres et docteurs tant des protestants que des papistes avancent ces Écritures et disent qu'ils sont des ministres qui veillent sur les âmes des gens afin de les présenter à Dieu et se nommant eux-mêmes les guérisseurs des âmes. Et pourtant ils disent qu'ils n'ont pas la même puissance ni le même Saint-Esprit que les apôtres et pourtant ils confesseront et reconnaîtront que l'âme est immortelle et que Dieu insuffla en l'homme le souffle de vie et qu'il devint une âme vivante et que dans sa main est l'âme de tout être vivant et le souffle de tout le genre humain. Job 12:10. Or la main de Dieu est immortelle et spirituelle. Est-il vraisemblable qu'il veille sur l'âme immortelle, qu'il la guérisse, et qu'il ne soit pas dans le même Saint-Esprit, le même Esprit du Christ et la même puissance de Dieu que ceux où étaient les apôtres et surveillants au temps primitif? Est-il vraisemblable que quelqu'un présente des âmes immortelles au Dieu immortel et les guérisse sans la puissance immortelle et le Saint-Esprit dans lesquels étaient les apôtres, car les docteurs, tant papistes que protestants, ont confessé qu'ils n'ont pas la même puissance ni le même Saint-Esprit que ceux où étaient les apôtres. C'est pourquoi je dis qu'ils ne sont pas vraisemblablement capables de guérir les âmes immortelles et de les présenter au Dieu immortel sans la même puissance et le même Saint-Esprit que ceux où étaient les apôtres. Or tous les prêtres, ministres et docteurs, tant des protestants que des papistes, prétendent prêcher l'Évangile éternel, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais combien il est peu vraisemblable qu'ils connaissent l'Évangile éternel, la puissance de Dieu, et le prêchent, tout en n'ayant pas la même puissance et le même Saint-Esprit que les apôtres. C'est pourquoi je dis que de tels ne peuvent prêcher l'Évangile éternel et la puissance de Dieu sans être dans la puissance éternelle et le Saint-Esprit. Et encore, les papistes et les docteurs protestants disent qu'ils prêchent le royaume de Dieu, ainsi que la grâce et la foi du Christ. La grâce et la foi sont les dons de Dieu et du Christ, qui sont parfaits, et Christ, qui est monté en haut, donne des dons aux hommes pour les amener à la connaissance du Fils de Dieu, à l'unité de la foi, et à l'état d'homme parfait, etc. Et les papistes disent qu'ils doivent avoir un purgatoire après leur mort. Et les protestants disent qu'ils doivent porter un corps de mort et des péchés de la chair tant qu'ils sont en deçà de la tombe, et qu'il n'y a pas de perfection sur la terre. Comment de tels sont-ils, vraisemblablement aptes à prêcher la foi, la grâce et les dons de Dieu, qui sont parfaits et servent à perfectionner les saints et à amener les gens à être des hommes parfaits, alors qu'ils n'ont pas reçu gratuitement de Dieu et du Christ ces dons parfaits? Et comment peuvent-ils prêcher le royaume de Dieu, qui consiste en justice, paix et joie dans le Saint-Esprit, et ne pas avoir le même Saint-Esprit que les apôtres? Et comment de tels sont-ils aptes à prêcher la Jérusalem spirituelle et céleste, la mère de tous les vrais chrétiens, où n'entre rien d'impur, alors qu'ils n'ont pas la même puissance et le même Saint-Esprit que ceux où étaient les apôtres, mais suivent leurs propres esprits par leurs arts naturels, langues et sciences qu'ils ont achetés pour de l'argent? Et comment de tels sont-ils aptes à prêcher Christ, qui a dit « Je suis d'en haut, et je ne suis pas de ce monde » et de tels, avec leurs dons naturels, langues et sciences d'en bas, sont-ils aptes à prêcher Christ Jésus et la vérité telle qu'elle est en lui? Et l'Écriture dit que nul ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, et que ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ ne lui appartiennent pas. Dès lors, comment de tels peuvent-ils être des ministres du Christ sans avoir l'Esprit du Christ et le Saint-Esprit dans lesquels étaient les apôtres? Car l'apôtre a dit, « Ceux qui n'ont pas l'Esprit du Christ ne lui appartiennent pas, donc ils ne sont pas ses messagers, ministres et docteurs. » Et les docteurs papistes et protestants qui s'opposent à la vraie lumière du Christ, qui éclaire tout homme venant au monde, qui est la vie en Christ, laquelle, avec leurs ténèbres, ils ne peuvent saisir, bien qu'elle luise dans leurs ténèbres, et qui haïssent la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises, et ne viennent pas à elle parce qu'elle les reprend. Et ainsi ils ferment leurs yeux et bouchent leurs oreilles à la lumière, qui est la vie en Christ, et ainsi ne veulent ni entendre de leurs oreilles ni voir de leurs yeux. Ils ne sont donc pas aptes à être convertis à Christ pour être guéris, lorsqu'ils bouchent leurs oreilles à la divinité du Christ, à savoir sa lumière, la vie en lui, que Christ leur commande de croire et de suivre, et pourtant, sans la lumière, la vie en Christ, ils prétendent le prêcher dans la chair et le nier dans sa divinité. Et l'apôtre dit, « J'ai connu Christ selon la chair, mais maintenant je ne le connais plus ainsi. » Mais que diront à cela les docteurs, tant papistes que protestants, qui nient Christ, la vraie lumière qui éclaire tout homme venant au monde, et de tels ne sont guère aptes, et ne peuvent pas prêcher Christ véritablement tel qu'il fut dans la chair, ni lui dans sa divinité. Et nul ne peut, sinon en étant dans la même puissance de Dieu, et le même Saint-Esprit que ceux où étaient les apôtres, qui conduit dans toute la vérité, prêcher la vérité telle qu'elle est en Jésus, n'étant pas conduit en elle par l'Esprit de vérité. Car Christ a dit, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi, et vous le donnera, et vous rappellera les choses que Christ a dites, et de tels ne sont pas aptes à prêcher les choses spirituelles que le Saint-Esprit reçoit de Christ, s'ils n'ont pas le Saint-Esprit pour les recevoir. Et l'apôtre dit, nous annonçons les choses de Dieu, non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit. Et vous qui n'avez pas le même Saint-Esprit que les apôtres, vous n'êtes pas aptes à avoir les paroles qu'enseigne le Saint-Esprit, pour exprimer les choses de Dieu, au contraire, vous exprimez les choses de Dieu avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, par laquelle le monde ne connaît ni Dieu ni ses choses, et vous êtes ainsi des ministres de la lettre et des anciens auteurs, et non de l'Esprit. Xi, comment ceux qui tutent et persécutent les gens ne sont pas aptes à les convertir, comme le firent les apôtres? Et si Christ avait fait descendre le feu du ciel sur les Samaritains pour les consumer, comme les disciples zélés auraient voulu qu'ils le fassent, eux qui étaient sans la vraie connaissance, car ils ne savaient pas alors de quel esprit ils étaient lorsqu'ils demandèrent une telle chose à Christ. Mais Christ leur dit qu'il n'était pas venu détruire les vies des hommes, mais les sauver, et s'ils avaient été détruits, alors il n'y aurait pas eu tant de Samaritains convertis après l'ascension de Christ Jésus, de sorte que les disciples entendirent à Jérusalem la nouvelle, et en. Si le roi Manassé, ce grand idolâtre, avait été retranché par les Juifs dans son idolâtrie, il ne se serait pas repenti, comme il est dit qu'il le fit. Et si les chrétiens avaient tué Saul, ce grand persécuteur, il ne se serait pas repenti et ne serait pas devenu chrétien, et n'aurait pas été appelé Paul. Et tous ces milliers de Juifs qui furent convertis après l'ascension de Christ par les apôtres, et qui n'avaient pas été convertis avant la crucifixion de Christ, si, au jour où il était dans la chair, Christ les avait fait emprisonner, dépouiller de leurs biens et mettre à mort, alors ils ne se seraient pas convertis par la suite, qui s'opposaient à lui. Et n'est-il pas dit que Christ consumera et détruira l'homme de péché, le mystère d'iniquité, qui fait obstacle, s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu? Ainsi la vengeance appartient au Seigneur, et il la rendra, et tous les hommes et femmes doivent obéir à la loi de Dieu et au commandement du Christ. Aime ton prochain comme toi-même, et fais à tous ce que tu voudrais que les autres te fassent. C'est là la loi et les prophètes, et Christ et les apôtres l'ont enseigné. Or, quelqu'un voudrait-il que d'autres le brûlent, le pendent, l'emprisonnent, le dépouillent de ses biens et le bannissent, parce qu'il ne veut pas être de la religion d'un autre et abandonner la sienne. Et ceux qui ne voudraient pas qu'on leur fasse cela, et qui trouvent dur que d'autres le leur fassent, n'est-ce pas alors dur pour eux de le faire aux autres, et ils ne voudraient pas qu'on le leur fasse? Alors ceux qui font aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse, n'agissent-ils pas contrairement à la loi, et aux prophètes, à Christ et aux apôtres, à savoir aimer ton prochain comme toi-même, et faire aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent, Xi? Concernant les papistes qui font du pain et du vin la chair et le sang du Christ, et l'apôtre a dit qu'il ne connaissait plus Christ selon la chair, et comment les chrétiens formalistes prennent le pain et le vin à genoux, en souvenir de la mort du Christ, tandis que ses disciples le prirent assis. Il y a eu et il y a beaucoup d'agitation parmi diverses sortes de gens appelés chrétiens au sujet du fait de manger et boire le pain et le vin, que certains appellent un sacrement, et que d'autres appellent Christ après l'avoir béni et consacré, comme ils disent. Et aussi ceux qui ne disent pas que les éléments du pain et du vin sont le corps et le sang du Christ, ou le Christ lui-même, qu'ils prennent sur leurs genoux en s'agenouillant, ceux-là sont appelés hérétiques. Les Juifs ne devaient pas manger la Pâque que Dieu avait commandée à genoux, ni s'agenouiller pour la manger, car où le Seigneur a-t-il commandé aux Juifs de s'agenouiller devant quoi que ce soit qu'il leur ait commandé de prendre ou de manger, et toutes les figures et ombres, ou types, où le Seigneur a-t-il jamais commandé aux Juifs de se courber ou de s'agenouiller devant de telles choses? Ils devaient se prosterner devant le Seigneur, le servir et l'adorer. Exode 20, 4-5, 2-5, 8-9. Car après que vous avez consacré les éléments du pain et du vin et que vous vous en êtes fait un Christ et un Dieu, certains d'entre vous ne se courbent-ils pas et ne s'agenouillent-ils pas devant cela? Et après tout ce que vous avez fait, ce ne sont encore que des éléments de pain et de vin. Et le Seigneur a dit, « Tu ne feras pas de ressemblance de quoi que ce soit qui soit dans le ciel. Et ne faites-vous pas une ressemblance du Christ qui siège à la droite de Dieu dans le ciel, avec les éléments du pain et du vin, et cela est une transgression du commandement de Dieu. » Or, le soir venu, Christ s'assit avec ses 12 disciples, comme en Matthieu 26, 20-31. Il n'est donc pas dit qu'ils se soient agenouillés ou prosternés, mais qu'ils se sont assis lorsqu'ils prirent le dernier repas avec Christ. Et encore en Marc 14, 18, le soir, Jésus vient avec ses 12 disciples, et comme ils étaient assis et mangeaient, Jésus leur dit, « Ici vous pouvez voir qu'ils étaient assis et mangeaient. » Il n'est pas dit qu'ils se soient prosternés ou agenouillés pour manger, mais ils étaient assis avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs au repas, la nuit avant sa crucifixion. Et en Luc 22, 14, quand l'heure fut venue, Christ s'assit, et les 12 apôtres avec lui. Il n'est pas dit qu'ils se soient prosternés ou agenouillés, mais qu'ils se sont assis avec Christ lorsqu'ils prirent le pain et le vin. Ainsi, vous qui professez que l'Écriture est votre règle, pourquoi contraignez-vous les gens à se courber et à s'agenouiller lorsqu'ils prennent les éléments du pain et du vin, puisque voici trois témoins, Matthieu, Marc et Luc, qui disent tous qu'ils s'assirent avec Christ à la scène, la même nuit où il fut trahi, lorsqu'ils burent et mangèrent. Et aucun ne n'a jamais dit qu'ils se soient courbés ou agenouillés lorsqu'ils burent du fruit de la vie et mangèrent le pain en mémoire du Christ, pour annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. De cela, vous pouvez voir plus largement dans un livre intitulé « Une distinction entre les deux soupers du Christ », à savoir le souper lorsqu'il fut trahi, et le souper après son ascension. Et quand donc Christ, ou les apôtres, leur ont-ils commandé de faire un autel et de s'y incliner, ou de s'incliner devant lui, et d'établir des cierges extérieurs dans des chandeliers extérieurs, pour brûler nuit et jour dans les églises ou sanctuaires extérieurs, comme vous les appelez, comme le font vos papistes? Et les non-réformés, ne s'inclinent-ils pas devant l'autel qu'ils ont fait, et n'y placent-ils pas un cierge extérieur dans un chandelier extérieur, même s'ils ne les allument pas, ils se tiennent prêts au cas où le pape ordonnerait de les allumer. Ces choses, autels, cierges et chandeliers, allumés ou non, et le fait de se courber et de s'agenouiller devant vos autels, et devant le pain et le vin quand vous les prenez, n'avez-vous pas tout cela du pape et des papistes, et non du Christ et de ses apôtres? Et si vous observez les apôtres, ils prenaient le pain et le vin la nuit, après le souper, mais vous le prenez avant le dîner, et vous dites que l'Écriture est votre règle. Et Christ dit à Jean, Apoc 1, 20, « Les sept chandeliers que tu as vus sont les sept églises, ce n'étaient donc pas sept chandeliers extérieurs dressés dans les églises, comme vous les appelez, mais les sept églises étaient les sept chandeliers d'or qui portaient la lumière du Christ, laquelle brille continuellement, telle était l'église du Christ, et telle est l'église du Christ aujourd'hui. » Et l'apôtre a dit, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un, C'est pourquoi Christ n'a pas honte de les appeler frères, disant « Je déclarerai ton nom à mes frères, au milieu de l'Église je chanterai tes louanges. » Hébreux 2:11-12. Ainsi, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux, et l'Église du Christ est le chandelier d'or, et Christ est au milieu. Ainsi il est une lumière au milieu des sept chandeliers d'or. À Dieu soit donc la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3:21. Et les Juifs, dans la première alliance, avaient des ordonnances pour le service divin, un sanctuaire terrestre, un tabernacle et un chandelier. Mais Christ n'a-t-il pas aboli toutes ces choses mondaines, qui étaient faites et dressées par des hommes? Hébreux 9:1-2. Mais Christ, notre souverain sacrificateur, est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, que le Seigneur a dressé, et non l'homme. Hébreux 8:1-2. Et l'apôtre a dit, « Désormais nous ne connaissons personne selon la chair. » Et même si nous avons connu Christ selon la chair, désormais nous ne le connaissons plus ainsi, à savoir Christ selon la chair, et désormais n'est-ce pas le temps à venir, 2 Cor 5:16. Ainsi les apôtres étaient bien loin de faire un Christ des éléments du pain et du vin, sa chair, ses os et ses nerfs, lorsqu'ils disaient, oui, même si nous avons connu Christ selon la chair, désormais nous ne le connaissons plus ainsi, à savoir selon la chair. N'était-ce donc pas dans l'esprit, dans sa divinité, et en tant qu'il était Dieu? Mais quelle œuvre les papistes ont faite en prétendant faire de la chair, du sang et des os du Christ à partir des éléments du pain et du vin, et en se prosternant devant cela et en l'adorant, tout en brûlant et tuant ceux qui ne le voulaient pas. Or ceux qui, au jour des apôtres, prenaient les éléments du pain et du vin, le faisaient en souvenir et en signe de la mort de Christ jusqu'à ce qu'il vînt. Et Christ a dit qu'il reviendrait vers ses disciples, et il l'a fait. Et Christ a été mis à mort selon la chair, et non sa divinité, ni en tant qu'il était Dieu, lui qui a dit, « Mis à mort quant à la chair, mais rendu à la vie par l'Esprit. » 1 Pierre 3:18. Et Jésus a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Et encore Christ a dit, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez. » Jean 14:23-28. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et où donc les apôtres ont-ils jamais pris du pain et du vin en souvenir de la mort de Christ selon la chair, après avoir dit « Quoique nous ayons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi, c'est-à-dire selon la chair, parce qu'ils le connaissent dans l'esprit. » 2 Cor 5:16. Et maintenant, vous papistes, qui vous appelez catholiques romains, c'est-à-dire universels, et pourtant vous avez dit dans une controverse avec Fox, que vous n'aviez pas la même puissance ni le même Saint-Esprit que les apôtres avaient au temps primitif, et pourtant vous dites qu'après avoir consacré le pain et le vin, c'est le corps de Christ, sa chair, son sang et ses os, oui, le Christ tout entier, et pourtant, une fois ainsi fait, il n'a ni jambes, ni mains, ni bouche, et ne peut ni parler, ni entendre, ni voir, ni marcher. Et pourquoi ne pouvez-vous pas faire une Vierge Marie, la mère de Christ, aussi bien que faire un Christ, et un Saint-Pierre de pain et de vin, aussi bien qu'un Christ, et le placer sur une chaise, aussi bien que placer un pape sur la chair de pierre, comme vous l'appelez, et n'est-ce pas là une étrange prestidigitation que de changer le vin en sang, et le pain en chair, os et nerfs? C'est un miracle aussi étrange qu'on n'en ait jamais entendu dans le monde, opéré par un esprit impur, car certains prêtres papistes ont confessé dans une dispute avec des Quakers, chez Thomas Apostle dans la maison de Gérard Robert, lorsqu'on vous demanda si vous aviez le même Saint-Esprit que les apôtres, vous l'avez nié, disant que c'était présomption d'affirmer une telle chose. Puis on vous dit alors qu'il n'était pas probable que vous fussiez conduit dans toute la vérité. En quoi pouviez-vous prier? Et en quoi était votre communion? Cela ne pouvait être que dans l'esprit impur, qui conduit hors de toute vérité? Car le Saint-Esprit conduisit les apôtres et l'Église de Christ dans toute la vérité, et ils priaient dans le Saint-Esprit et avaient communion dans le Saint-Esprit. Et les apôtres et l'Église de Christ n'ont jamais dit ni prétendu qu'avec le Saint-Esprit ils pouvaient changer le vin en sang, et le pain en chair, os et nerfs, puis dire que c'était le Christ tout entier, et le manger après l'avoir fait. Et quant à ceux qui ne voulaient pas le croire, les brûler comme vous papistes l'avez fait, vous qui prétendez changer le vin en sang et le pain en chair, os et nerfs, et dire que c'est le Christ tout entier, qui ne pouvait ni parler, ni voir, ni marcher. Étrange faiseur de monstres, avec votre esprit impur, et quand vous avez fini, vous le mangez. Et lorsque nous vous avons dit et vous avons prié d'éprouver votre Christ, pour voir si sa chair et son sang ne se corromperaient pas, de mettre une part du vin et du pain que vous avez consacré, enfermé avec le non consacré dans une cave, et que sept protestants et sept papistes veillent sur la cave, et si le consacré se corrompait, moisissait et mourait comme l'autre, alors vous devriez venir à nous. Mais s'il se révélait immortel, et être la véritable chair, le sang et les os de Christ, alors nous viendrions tous à vous, et cela m'est. Car nous sommes dans la foi catholique, établie au jour des apôtres, dont Jésus-Christ a été et est l'auteur et le consommateur, et nous sommes rachetés non par des choses corruptibles, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaute et sans tache. Et l'apôtre a dit, La chair de Christ n'a pas vu la corruption, et bien qu'il ait été crucifié, cloué à la croix, que son côté ait été percé d'une lance, qu'il soit mort et enseveli, et qu'il ait été 3 jours et 3 nuits dans le sépulcre, pourtant sa chair n'a pas vu la corruption et n'a pas changé, car l'apôtre a dit, « Le Seigneur n'a pas permis que Christ, son saint, voie la corruption. » Et c'est pourquoi, dit-il, « Mon cœur s'est réjoui, ma langue a été dans l'allégresse, de plus, ma chair aussi reposera dans l'espérance, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts pour le faire asseoir sur son trône, et sa chair n'a pas vu la corruption. » Actes 2, 26-27, 31-32. Et donc maintenant, vous papistes, sortez et mettez à l'épreuve votre grand monstre et votre miracle, comme précédemment, Xive, l'épreuve de l'esprit du pape. Le pape laissera-t-il les protestants tenir leurs assemblées paisibles en toute tranquillité en France, en Espagne, au Portugal, en Italie et à Rome, et dans toutes les villes ou dominations où lui, ou les siens, ont du pouvoir? Permettrait-il aux protestants de se réunir si le pape, ou ses partisans, souhaitaient que leur peuple puisse tenir ses assemblées paisiblement dans les nations, royaumes, villes ou gouvernements où les protestants ont le pouvoir? Allons, voyons s'il a assez de sainteté, ou d'infaillibilité, pour faire aux autres ce qu'il voudrait que les autres lui fassent. Je dis « faire aux autres ce qu'il voudrait que les autres lui fassent », c'est-à-dire laisser à d'autres, d'une persuasion religieuse différente de la sienne, leur liberté, comme il voudrait la sienne, puisqu'ils professent tous Christ en parole, comme auparavant. Si le pape ne le peut pas, il est au-dessous de la loi et des prophètes, et au-dessous d'un chrétien, et si ses actions sont au-dessous de la loi, des prophètes et du christianisme, c'est alors une honte de parler d'infaillibilité et de sainteté. XV. Concernant le royaume de Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, qui fut le plus grand prophète né d'une femme, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est annoncé, et les hommes y entrent de force. Ainsi, le royaume éternel de Dieu est l'aboutissement de la loi, des prophètes et de Jean, car le royaume éternel de Dieu consiste en justice, en paix et en joie dans le Saint-Esprit, que la loi, les prophètes et Jean appelaient, et qu'ils présentaient au moyen de figures, de types et d'ombres, et Jean courait devant et préparait le chemin du royaume. Ceux qui sont dans le royaume sont dans la substance, et dans l'aboutissement de la loi, des prophètes et du ministère de Jean, et ils sont au terme de toutes les choses qui changent, car le royaume de Dieu est éternel et ne change pas. Moïse a été fidèle dans toute sa maison, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé ensuite. Mais Christ, comme fils sur sa maison, dont nous sommes la maison, nous qui sommes enfants de la Jérusalem céleste. Car Moïse était sur la maison d'Israël avec leurs figures et leurs ombres, mais Christ Jésus, qui est la substance, est sur sa grande maison spirituelle, à qui toute puissance dans le ciel et sur la terre a été donnée, lui qui éclaire tous leurs esprits dans la maison ou le tabernacle d'Adam déchu, laquelle lumière est la vie en Christ par qui Adam et Ève ont été faits, et toutes les choses qui ont été faites, ont été faites par Christ. Car Aaron allumait les chandelles et les lampes extérieures dans les tabernacles extérieurs faits de main d'homme. Mais Christ, le grand prophète, prêtre, évêque et berger, éclaire les esprits des hommes, la lampe du Seigneur, dans leur tabernacle non fait de main, par sa vraie lumière céleste et divine, qui est la vie en lui-même, la parole par laquelle toutes choses ont été faites comme plus haut. Ainsi Christ est sur sa grande maison, un illuminateur, un vivificateur, un sauveur, un rédempteur, un conseiller, un guide, un chef, un prophète pour ouvrir, un berger pour nourrir, un évêque pour surveiller, et un roi et seigneur pour régner, ordonner et gouverner dans sa grande maison spirituelle, dont il est la tête. Il est un père qui prend soin de sa grande maison et de sa famille céleste et spirituelle. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son règne n'aura pas de fin. Luc 1:33. Et vous lisez que certains ne voulaient pas que Christ règne sur eux, et qu'est-il advenu de ceux qui disaient, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous », Luc 19-14. Mais cela n'était pas de la maison de Jacob, de la seconde naissance, mais d'Ésaü, de la naissance, ou de la nature, de cette personne profane. Astérisque, la première naissance est celle d'un homme animé d'un esprit égoïste. Il ne veut pas renoncer à ses choix de plaisir, de passion, de divertissement, ni à sa colère et à ses convoitises. Quand la première naissance a été crucifiée et est morte sur la croix intérieure du renoncement à soi, la seconde naissance, née de Dieu, peut s'élever. Christ ressuscité au-dedans de l'homme gouverne alors la nouvelle créature comme son Seigneur régnant sur les pensées, les paroles et les actes de cet homme. Car tous les plaisirs extérieurs, les délices, la légèreté, la débauche, la vaine gloire et la profanation périront et seront réduits à rien, avec toutes les plaisanteries insensées et les discours vains et oisifs. Et les paroles oisives sont jugées et s'évanouiront comme la fumée, et toute impiété, injustice et irréligion, le relâchement, la débauche, l'impureté, la vantardise orgueilleuse, l'élévation et l'arrogance sont jugées, exclues du royaume de Dieu et de Christ. Car voici, un roi régnera dans la justice, Ésaïe 32, 1. Et son sceptre est un sceptre de justice, et le Seigneur régnera à jamais, de génération en génération, louez le Seigneur. Et par Christ les rois règnent, et les princes rendent des décrets de justice, et tous les juges de la terre. Il y aura une racine de Jessé, et celui qui se lèvera pour régner sur les nations. En lui les nations mettront leur confiance, Rome 15, 12. C'est pourquoi louez le Seigneur, vous toutes nations, et célébrez-le, vous tous peuples. Psaume 117, 1. Car Christ en vous est l'espérance de la gloire, et Christ doit habiter dans vos cœurs, à savoir dans ceux des saints par la foi, dit l'apôtre, car Christ est le même aujourd'hui qu'il l'était hier, et ainsi pour toujours. Et Christ Jésus est établi souverain sacrificateur pour toujours, et encore, tu es sacrificateur pour toujours. Car la loi a établi des souverains sacrificateurs sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, postérieure à la loi, établit le Fils qui est consacré pour toujours. Et Christ dit à Jean, « Je suis celui qui vit, et qui a été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Ainsi Christ a établi son royaume, qui n'aura jamais de fin, et toute puissance dans le ciel et sur la terre lui a été donnée, et les saints qui sont nés de nouveau voient son royaume, y entrent de force, et en sont héritiers et possesseurs tant qu'ils vivent sur cette terre. Et ceux qui entrent dans le royaume chantent le cantique de Moïse et de l'agneau, disant qu'il est roi des saints. Et Ézéchias a dit, « Tu es Dieu toi seul de tous les royaumes de la terre. » Ainsi non seulement du royaume d'Israël mais de toute la terre. Et la bonne semence ce sont les enfants du royaume, mais l'ivraie que le méchant le diable sème ce sont les enfants du méchant. Et nul homme qui, ayant mis la main à la charrue, regarde en arrière, n'est propre pour le royaume de Dieu. Luc 9, 62. Et lorsque Jésus s'aperçut qu'il allait venir le faire roi de force, il se retira seul sur une montagne. Jean 6, 15. Car Christ a été oint roi par le Seigneur, et il savait donc qu'il n'avait pas besoin d'être fait roi par l'homme, car Zacharie a dit, ne crains point fille de Sion. Zac 9, 9, Jean 12, 15. Voici ton roi vient à toi, monté sur le petit d'une ânesse. Et cela ne s'est-il pas accompli quand Christ est venu, mais c'était leur roi spirituel, et ils ne voulaient pas qu'il règne en esprit. Et Nathanaël a appelé Christ le Fils de Dieu, et roi d'Israël. Et l'apôtre dit aux Colossiens qu'ils ont été transportés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Colossiens 13. Au roi éternel, immortel, invisible, au seul sage, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici un roi immortel, éternel, invisible, et il est connu par son Saint-Esprit invisible, et règne dans les cœurs, et dans le royaume des cieux au-dedans des hommes et des femmes, lui qui est le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui possède l'immortalité et habite dans la lumière. Et Jean a dit qu'il était, dans le royaume et la patience de Jésus-Christ lorsqu'il était dans l'île de Patmos, et que Christ, le premier-né d'entre les morts, est le prince des rois de la terre, et qu'il a fait de nous des rois et des prêtres spirituels pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et sur Christ est écrit un nom, qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs, Apoc 19, 16, et ceux qui voient ce nom et cette inscription, c'est avec un œil spirituel. George Fox astérisque ainsi Christ, qui est esprit, règne dans le royaume au-dedans du cœur d'un homme purifié, et Christ se voit non avec l'œil naturel, mais avec l'œil spirituel. Avec l'œil spirituel, on voit la face de Dieu, pour avoir la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ Jésus, et cela se voit dans une gloire toujours croissante. Fin du livre, si fin des livres de doctrine. Retour à l'index de doctrine. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.